Europe 1, en balade avec Daniel Herrero. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec un magicien des mots que nous partons en balade aujourd'hui. Daniel Herrero, ancien joueur de rugby, devenu entraîneur légendaire, puis commentateur lyrique et enfin écrivain inspiré. Il vient de publier son dictionnaire amoureux de l'Ovalie. Daniel Herrero, avec sa tignasse blanche et son bandana rouge, est le philosophe du rugby. D'ailleurs, il nous a donné rendez-vous dans le plus célèbre café philosophique de Paris, place de la Bastille.
Frédéric Taddeï, en balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
Bonjour Daniel Herrero.
Ami du jour, bonjour. Je vous salue bien humblement.
Nous voilà au Café des Phares. Ça a été le premier café philosophique. Vous avez vos habitudes ?
Franchement, difficile de dire que j'étais un habitué ponctuel. Mais le Café des Phares, donc sur la place de la Bastille, un lieu que j'aime particulièrement puisque je réside pas très très loin et qui est un lieu que j'arpente régulièrement dans ma vie. Et puis le Café des Phares, il devient le premier café philosophique.
C'est en 92, hein,
si ouais, 92-93. Voilà, autour d'un citoyen qui est un ami à moi, qui s'appelle Marc Sauté, qui philosophe incontestablement à la fois comme un maître, ou tout au moins comme un accompagnant à la réflexion, à l'idée sociale que la philosophie peut aussi faire du lien entre les humains, quoi. Et moi, je collabore à ça, j'y participe, je suis régulier. Mais je suis aussi entraîneur de rugby, quand même.
Oui, à Toulon, en plus.
Alors là, je suis un peu entre Toulon et Paris, quand même. Et donc, mais je viens quand même plus que régulièrement. Je participe au débat, des fois, quelques même.
C'était le dimanche, d'ailleurs.
C'était le dimanche, 11h, 13h, 13h30, à l'apéro, quoi. On dira apéro philo, tu vois. Oui. Les deux idées m'allaient plutôt bien, quand même, quoi. Mais moi, derrière, j'ai enchaîné des matchs,
tu vois. À 15h, c'est toujours 15h.
Le sport a ça de bien qu'il a les fidélités d'horaire, et c'était le dimanche à 15h. Maintenant, ça a un peu changé. Voilà, mais donc j'y suis venu régulièrement, et j'ai pris pour ce lieu à la fois affection, mémoire, et il me semble dégager encore quelques effluves de ce que furent les grands débats. Ouais.
Pourquoi ce bandana rouge ? Ça sert à vous reconnaître, ça, on vous voit de loin, mais d'où il vient ?
Yes, bon, on est un peu dans l'espace de mon jardin secret, mais... Non, mais... L'idée base, c'est... j'arpente assez tôt. Moi qui suis fils d'immigré espagnol, assez tôt, j'ai pas l'exil au cœur, mais j'ai le goût de l'ailleurs un peu au cœur, assez tôt, de ma vie, quoi. Même quand j'ai fait à l'époque, non pas de mes misères familiales, mais tu vois, où les aisances financières sont basses, mais enfin, je suis assez sportif, je gagne quelque peu, et je vagabonde. Et en vagabondant, ça me séduit quand même, quelque part, ça me séduit. Je vais en Inde, tu vois, dans la période 68arde. Je vais sur les terres latino-américaines, je vais en Bolivie le lendemain de la mort du Che. Enfin, voilà, je le mets. Mais il faut dire que je le mettais aussi quand j'étais joueur de rugby. Je mettais le bandeau sur le terrain. Un, parce qu'il me tenait la tignasse. Deux, parce qu'il donnait une forme d'allure qui n'était pas déplaisante, tout au moins à mes yeux, quoi. Je me suis aperçu que... je ne sais pas, mais c'est un narcissisme parfois régressif et qui m'inquiète. Ça ne m'allait pas mal, ou tout au moins je le ressentais comme tel.
Mais c'est vrai.
Je le ressentais comme tel. Non, je ne suis pas formel, mais moi je le ressentais comme tel. Et je ressentais avec ça, tu vois, je ne l'ai plus quitté depuis, donc ça remonte quand même à plus de 40aine d'années. Je ressentais avec cette attitude-là, ou ce comportement dans ma posture, quoi, tu vois, du bandeau, je le ressentais comme étant. Écoutez, braves gens, il me semble légitime de se porter en liberté comme bon vous semble sur cette terre, quoi. J'en ai fait quasiment une loi de vie, quoi, tu vois, voilà.
Frédéric Taddeï se balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
Vous venez de publier un dictionnaire de l'Ovalie, un dictionnaire amoureux de l'Ovalie. Vous aviez fait un dictionnaire amoureux du rugby, c'est le même ou sous un autre titre ?
Pas franchement, Fred. Je sens une petite impertinence dans le questionnement, mais elle me paraît légitime quand même, puisque c'est à peu près le même domaine. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a deux noms différents et que c'est deux mots.
Le rugby, c'est un territoire. Le rugby, c'est un sport.
Voilà. Le rugby, c'est une pratique sportive. Elle a ses codes, elle a ses lois, elle a ses règles. L'Ovalie, c'est un territoire. Et encore que le territoire, il est métrique, il est mesurable, de fait. L'Ovalie, c'est... J'allais dire, c'est une morale, plus. C'est un territoire moral.
C'est une philosophie.
Voilà, on ira... J'ose penser tout autant une philosophie qu'une idéologie, mais Oui, voilà, c'est plutôt une manière d'être au monde, une éthique, je dirais, à l'intérieur duquel un jeu sportif, où des individus courent derrière une balle qui n'est même pas ronde et où ils s'arsoutent.
C'est bizarre d'ailleurs.
C'est quand même très très bizarre. Il faudra qu'on y revienne.
Ovale, c'est quand même dingue d'avoir pensé à faire un ballon ovale. C'est-à-dire, on ne sait jamais où il va rebondir.
Voilà. Alors, mais je ne sais pas s'ils y ont pensé à l'origine, ce qu'on appellerait les bâtisseurs, les fondateurs ou tout au moins les précurseurs. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont voulu. Alors, me semble-t-il, dans ma mémoire, moi, ancestrale, celle qui m'échappe, tu vois, puisqu'elle remonte à peu près à 2 siècles, il me semble que les gens, ou les jeunes joueurs, les pubères, les ados, les flamboyants du collège de rugby, ceux de Eton peut-être, ceux d'Oxford et de Cambridge, là nous sommes chez les British, hein, et qui courent derrière un ballon à peu près rond, une vessie de porc à peu près ronde, pour jouer au foot, c'est-à-dire avec les pieds presque essentiellement. Il y en a quelques-uns qui se mettent à jouer un peu avec les pieds, avec les mains, là nous sommes au début du 19e, dans des lieux où on se dit avec les pieds, avec les mains, on pourra faire peut-être un peu plus de choses, on peut se rentrer dedans, et puis on peut se faire des passes, on peut taper fort ou shooter fort. On peut, enfin, le pied-main semble séduisant, et cela, et ceux qui jouent avec le pied-main, je dis, bon, s'il n'est pas radicalement rond, c'est pas bien grave, quoi. Hein. C'est pas bien grave.
C'est même alors, plus rigolo.
C'est même peut-être plus rigolo. Alors, cette idée de l'impertinence, elle, à mes yeux, mais je ne suis pas formel non plus, elle habite l'âme de la maison Ovalie, tu vois. C'est-à-dire qu'avec ta petite science ou avec tes forts de cartésien, petit frère, sache que l'objet médian, celui qui règne ou celui qui domine nos échanges, cet objet transitionnel qui fait quand même qu'on s'articule ensemble et qu'on se mesure à d'autres, il a aussi fait bien attention. Il a une espèce de manière d'être au monde extrêmement équivoque. Il est espiègle et impertinent. Et ça, collègue, ça va te poser un certain nombre de problèmes.
Où est-ce que vous nous emmenez en balade aujourd'hui,
dans ce cœur de Paris, je dirais, pour lequel j'ai sensibilité, émotion. Là, nous sommes autour du quartier Bastille. Nous sommes à une enclavure, évidemment, à quelques pas du périmètre du Marais, ce centre de Paris où j'ai aussi habité pendant longtemps, où je suis encore très présent, je dirais, dans mon quotidien, quoi. Voilà, on pourrait cheminer vers l'intérieur du Marais, vers la place Saint-Paul, vers un peu ce quartier qui sent à la fois l'histoire de Paris, peut-être quelques Roland d'Orient, et qui peut-être même, à mes yeux tout au moins, peut porter de temps en temps des effluves de Méditerranée.
Eh bien, allons-y.
Europe 1, en balade avec Daniel Herrero. Frédéric Taddeï.
On quitte la place de la Bastille avec Daniel Herrero. On s'aventure dans la rue Saint-Antoine. Et vous me disiez que ça vient de rouvrir. Hein.
Oui, alors la place de la Bastille, pour laquelle j'ai eu une affection, je me demande bien pourquoi. Sans doute, parce que quand même, elle porte des traces de morale ou de mémoire assez fortes. Et j'ai pour ce lieu, évidemment, comme tu peux l'imaginer, quelques affections. Là, il est tracé au sol. Cette marque que nous avons devant nous, là, c'est la partie intérieure de la Bastille, celle qui donnait dans le bourg de Paris, quoi. Ouais. À partir de l'extérieur, nous étions dans le faubourg. Ouais. Le faubourg.
Et c'est vrai qu'on a gardé la trace au sol de la Bastille, absolument, qu'on a détruite à partir du 14 juillet 89.
Voilà, absolument. Bon, elle a mangé lourd quand même, quand dans l'irritation un peu populaire, on dira. Quoi.
C'est pas très beau non plus.
C'est pas très beau non plus. Non, c'est le Baptiste, c'était une espèce de ragoût comme ça posé là, mais en même temps, la morale était un peu frelaté, on y filait quand même la misère. Tu sais, ici, qu'il y avait eu la fameuse joute. Ici, il y a le sport. Ouais. Ici, il y a le sport. Enfin, à l'époque, le sport, il est royal, et on ne s'appelle pas comme ça. Il y a les pratiques physiques, elles sont d'équitation, elles sont de joute, ouais. Elles sont militaires, de fait. Toutes les pratiques physiques, corporelles, elles sont militaires. Elles ont une belle considération, elles font grandir le monde, elles ont déjà un peu l'âme du sport futur, quoi. Mais par contre, elles sont très aristo. Et ici, le roi va prendre une flash...
C'est la rue Saint-Antoine, c'est là qu'il y a le fameux tournoi où il se prend une lance dans l'œil.
Voilà, et depuis, c'est resté assez célèbre. Mais juste en face, quand même, pour le dire aussi, ce que l'on appelle le faubourg Saint-Antoine, là où je réside aujourd'hui, le faubourg Saint-Antoine, quand même, il a cette vitalité populaire, historique, et c'est quand même là qu'il y a eu le plus de turbulents populaires.
Ah oui ? Ouais, c'est là qu'est partie la prise de la Bastille.
Voilà, et puis toutes les grandes barricades, c'était là, malgré presque toutes. Il y en a eu d'autres ailleurs, évidemment, mais voilà. Et moi, j'imagine que juste devant ma maison, peut-être Gavroche est passé, mais je ne suis pas formel. Hein.
Le rugby, et vous le rappelez bien dans tous vos livres d'ailleurs, hein, c'est un sport collectif où la conquête du ballon passe par le corps à corps, par l'affrontement. Et au fond, cette violence inhérente au rugby, elle est immédiatement tempérée par la règle, et par l'arbitre.
Ah oui.
C'est donc un très savant mélange entre tous nos instincts primitifs et la règle de droit qui va venir. C'est votre ami Michel Serres,
oui,
que j'ai beaucoup aimé moi aussi, mm-hmm, et qui me manque, qui disait le rugby, ça a été ma faculté de droit.
Oui. J'ai pour cette dernière remarque beaucoup d'affection. La remarque elle-même, le rugby, c'est ma faculté de droit. Je pense qu'il avait ajouté, notamment dans un de ses bouquins qui s'appelle Variations sur le corps, un bouquin que, évidemment, j'ai aussi beaucoup aimé, sans parler de l'estime fraternelle immense que je portais à ce monsieur, à la fois maître et frère, tu vois. Voilà. Et Michel Serres, il disait effectivement, quand même, le sport, et le rugby en particulier, ça enseigne l'ordre dans la passion, je dirais, ou dans les rudesses du monde. Ça donne le cadre à l'intérieur duquel on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, mais à l'intérieur duquel on n'a plus le droit. Voilà, la limite, quoi, le cadre, l'ordre, la loi. Et quand même, l'homme ne peut vivre, de fait, décemment, y compris dans ses formes les plus turbulentes et les plus engagées et les plus rebelles, que dans le respect des lois. Et il considérait ça comme un élément essentiel, je dirais, de l'épanouissement de l'humain, quoi. C'est, lui, il en faisait une loi de vie, quoi. Et en même temps, le Michel Serres, bon, il avait ajouté, et je t'assure que, bah, quand même, ça me sensibilise, et même, je le mets, je crois, sur mon cœur en permanence, il avait dit, je pense que mes profs de rugby, ou tout au moins mes entraîneurs de rugby, m'ont aussi appris à penser. J'avoue, une espèce de d'incendie affectueux, quoi, tu vois, quelque chose, tu vois, je me sens très honoré de ça.
Frédéric Taddeï se balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
Vous avez été un grand noctambule, Daniel Herrero.
La pratique sportive m'a amené quand même à avoir deux types de considérations vers la nuit, je dirais. Voilà, le champ du sport, et le champ du sport notamment de compétition, celui, ouais, qui exige quand même que le corps soit un peu opérationnel. Tu vois. Donc moi, dans le jeu qui était le mien, le jeu de rugby, la troisième mi-temps est quelque chose d'assez sacré. Elle est culturelle, elle est historique. Le temps d'échange après le match, le temps du partage, il est considéré comme étant essentiel moralement. Le match ne peut se concevoir que sur trois mi-temps, deux de rude et une de douce. Ça, c'est historique depuis sa naissance. Donc, le temps d'après-match, de toujours, pour moi, y compris quand j'étais benjamin minime, hein, jusqu'à aujourd'hui où je rentre quand même dans la catégorie des matures, pour ne pas dire des burinés, hop, la troisième mi-temps reste la naissance.
Et il paraît même qu'on construisait le clubhouse, ah oui, avant de construire le stade.
C'est ma considération. Jamais, il me semble qu'il n'aurait été pensé de faire un stade en Angleterre, et même sur ma terre de Provence, et sans que nous, sur toutes les terres du rugby du monde, on construit prioritairement le clubhouse, le lieu où les hommes se rencontrent, le lieu où la convivialité est une évidence, ou tout au moins elle est une quête. Et puis après, on va un peu s'articuler autour sur des activités diverses, type par exemple le rugby, où on se bourre le mou pendant une heure et demie, où quand même on se confronte un peu à quelques idées assez bases, celle du courage, celle du partage, quoi, tu vois, et puis après on en parle. Hein. Voilà. Alors moi, la nuit, donc celle-là de nuit, je ne l'ai jamais bâclée. Et même, j'avoue quelquefois, pas radicalement des excès. Mais j'étais pas allergique à ce qui pouvait affrioler.
Vous nous raconterez ça tout à l'heure, vous allez nous emmener dans la rue de la Soif.
Ah oui, pour conclure.
Il y a la rue de la Soif, mais là on est devant l'hôtel de Sully. Et à vrai dire, je n'y suis jamais rentré. Je suis ravi d'y entrer pour la première fois avec vous. On se retrouve à l'intérieur dans un instant. Nous sommes avec Daniel Herrero dans l'hôtel de Sully, qui fait partie des grands hôtels particuliers construits par la noblesse dans le Marais au XVIIe siècle. Sully, ben, on le connaît tous, hein, c'était le ministre d'Henri IV, celui qui avait dit labourage et pâturage sur les deux mamelles de la France.
Il avait parlé d'une poule au pot aussi, c'est le même.
Oui, aussi, voilà. Et ben, c'était chez lui, on est chez lui. Mais on est aussi dans la première école de commerce au monde. C'est ici qu'au début du 19e siècle, les Français ont créé l'école de commerce. Ça s'appelait à l'époque l'école spéciale de commerce et d'industrie. C'est la première du monde, c'est devenu Subdeco. Elle était ici, c'était bien logée. Hein.
Ah, très très bien logée. On n'en fera aucun reproche sur le goût de leur installation, hein, franchement.
Alors là, on est à l'intérieur, il y a un très beau jardin à la française, bien dessiné. Tout ça est charmant, il y a beaucoup de monde.
Ah, incontestablement, le lieu a dû... a le charme du cossu. Et j'ose penser, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que les commerçants s'en soient préoccupés, mais qu'il y a aussi le charme de l'élégance.
Oui, c'est
vrai. Bon, franchement,
c'est... Élégance que les rugbymen ont un tout petit peu perdu. Hein. Autrefois, je me souviens que...
J'en ai bien peur.
Ils avaient des maillots qui étaient le maillot du club, hein, le maillot pour lequel on était prêt à mourir. Aujourd'hui, il y a combien de sponsors sur un maillot de rugby?
Je prends un peu ombrage de cette dernière remarque, mais je suis obligé de la constater avec une forme d'évidence. De fait, le maillot de rugby, historique, hein, historique depuis la naissance du jeu quoi, au 19e, il est sacré. Il est sacré. Alors c'est un truc étrange, parce que de fait, le maillot, ce n'est jamais quand même qu'un uniforme. De fait, non, on se reconnaît par ça. Tu es de la catégorie des rouges, tu vas jouer contre les blancs, ou réciproquement. On ne peut pas qu'on se confonde dans la rudesse du monde. En plus, nous, dans ce jeu-là, la fusion, le groupe, tu vois, est tellement fréquent que les perceptions sont des fois difficiles. Donc le maillot, il est sacré. Mais en même temps, le maillot, il est d'un lieu, il représente un lieu. Et à travers le fait qu'il représente un lieu, il représente une histoire. Et à part le fait qu'il représente une histoire, il représente des mecs, des hommes, des humains, même des hommes comme des femmes d'ailleurs. Hein. Plus de mecs quand même dans l'histoire. Hein.
Oui, ça monte bien hein, le rugby féminin, mais on en reparlera.
Oui, on va en reparler, et comme, non pas comme une urgence, comme une évidence, ouais. Mais de fait, à travers le temps, bon, il porte, alors tu as entendu ces vieux mots, quoi, faut mouiller le maillot. Ah bon, d'ailleurs, médine transpiration. Il faut respecter le maillot. Le maillot porte l'âme des anciens, hein, tu vois, tout ça. Et tout ça est vrai, de fait. Ça comptait beaucoup dans l'histoire, quoi. Là où t'as grandi, là où on t'a aidé, là où on t'a accompagné, là où le club t'a fait grandir aussi, quoi. Voilà, ça c'était majeur. Et ça donnait effectivement une forme de sacralisation de la mémoire. Ouais. Tu vois ça? Et la sacralisation de la mémoire, c'est. Bon, c'est quand même très conséquent dans l'éducation. Et à partir de là, il n'était pas pensable qu'on mette un quelconque signe dessus. Il nous est arrivé les fourbes dans les années 70. Les fourbes, c'est les mecs qui te disaient rien, qui te filaient le jeu de maillot, mais qui mettaient juste, par exemple, un triangle ou trois bandes. Tu vois ? Ou alors une vieille virgule. Tu vois, d'aucuns diraient niquer, par exemple. Enfin, je crois qu'ils l'ont traduit par Nike. C'était un peu mieux, mais. Et de fait, tu vois cette idée-là, mais c'était suspect, c'était un peu renard, quoi. Bon, ça c'est quand même, ça s'est démasqué. Et le professionnalisme, et puis le sport dans son ensemble, le passage vers le spectacle,
la télé,
l'image, quoi, la médiatisation de l'événement sportif, quoi, a fait que, bon, quand même, c'est un assez gros support visuel, quoi. Et à partir de là, on a commencé. Mais quand même, le corps de l'athlète, alors, on n'est pas encore à nos amis cyclistes, qui eux, alors, sont le prototype absolu, tu vois, des hommes sandwich, mais que moi, je déplore évidemment, lourdement, mais quand même, les rugbymen aussi, on en a beaucoup aujourd'hui, je pense qu'il y a jusqu'à 5-6, tu vois, puis il y a les maillots de l'extérieur, les maillots de la maison, les shorts de l'extérieur, les shorts de la maison, où on te tartine comme ça, où la croupe, tu vois, où le pectoral, on te les tartine de...
Voilà. Puisqu'on parle de mémoire d'ancêtre, d'identité, je me souviens que vous m'aviez raconté que vos enfants vous avez offert votre test de génome pour votre anniversaire et que vous aviez découvert avec les résultats vous aviez découvert que vous étiez vos ancêtres depuis 42 000 ans étaient en Ibérie méditerranéenne. 42 000 ans.
Il se peut que j'ai un peu forcé le trait sur 42 000. Il se peut, mais je ne suis pas formel. Je pense que en le relisant, c'est 37 000. Exagérer n'est pas mentir.
Non, dans 37 000 ans, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Presque à l'homme de Néandertal.
Voilà, c'est ça. Je les avais dépassés, ceux-là. Je les connaissais par
papillons. Les habitants d'Espagne, en plus. Hein.
Voilà, les habitants d'Espagne. Donc, Altamira, c'est peut-être des anciens à moi, à moins que ce ne soit Lascaux.
42 000 ans sans avoir bougé. C'est dingue. Moi, j'aime bien penser à vous en tant que Guerrero espagnol depuis toujours. Et comme il y a une chanteuse espagnole que j'aime beaucoup qui s'appelle Ampero Sanchez.
Je la connais.
Ouais. Bah, c'est le moment de l'écouter. Hein.
Ah, ça, c'est magnifique.
Corazón de la Realidad.
Voilà, ça, c'est magnifique aussi. Ah ouais, c'est sublime. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, madame? Je vais vous chanter la réalité autour du monde du cœur et des hommes. Ah, magnifique.
Europe 1, 11h30, en balade avec Daniel Herrero.
A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? pregunta al tojo lavar. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad, corazón de la realidad, corazón.
Tus ojos de niño son rebeldía y dignidad. Tus pies descalzos son mi dolor y mi
madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad,
corazón
de la realidad,
corazón
de la realidad.
C'était Ampero Sanchez, pas assez connu en France, qui chante Corazón de la Realidad. Qu'est-ce qui vous attire dans cet endroit, l'hôtel de Sully?
Alors, pour parler très honnêtement, je résidais juste en une encablure là.
Ah oui.
Ma chambre était là. Et j'y venais régulièrement, parce qu'ici, quand même, cet hôtel-là, il l'ouvre sur la place des Vosges.
Il a un petit passage.
Voilà, il a le petit passage qui est magnifique en même temps. Donc ce jardin, comme tu le vois, il est superbe. Là, il a une chaîne qui est magnifique. Voilà, ce jardin, il est superbe. Ça m'est arrivé d'y venir dessiner. Bon, j'ai écrit quelques ouvrages, tu le soulignais avec gentillesse, autour de l'Ovalie, mais j'en ai écrit sur d'autres sujets quand même.
Les Méditerranées,
par exemple.
Très bon livre.
Ouais. Et à partir de là, il m'arrive même encore d'y venir. Parce que sur la place des Vosges, je n'ai pas de chaumière, comme tu l'imagines. Je n'ai pas de voisinage avec des célèbres, mais quand même, le lieu a quelques charmes aussi. Et donc, ça m'arrive d'y passer. La maison de Victor Hugo est un lieu que je visite probablement au moins une fois par an.
Et ben on va ressortir de l'hôtel de Sully avec Daniel Herrero et continuer notre balade dans le bourg, comme il dit.
Frédéric Taddeï se balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
De retour dans la rue Saint-Antoine avec Daniel Herrero, qui vient de publier son dictionnaire amoureux de l'Ovalie aux éditions Plomb. On est vraiment là dans le Paris du XVIIe siècle. Hein. L'hôtel de Sully que nous venons de quitter, l'église Saint-Paul-Saint-Louis qui est juste devant nous, qui est avec son style baroque, on y faisait allusion tout à l'heure. La première messe d'ailleurs avait été célébrée par Richelieu.
Ah, ça je l'ignorais.
Ici, comme maître de musique, ont défilé les meilleurs compositeurs français de l'époque, hein, Marc-Antoine Charpentier, Henri Desmarais, Michel Richard de Lalande, Madame de Sévigné et Lavoisier étaient les bienfaiteurs de la paroisse. Ah oui, c'était...
C'est très distant, je les ignorais.
Oui. Non, il y avait une excellente ambiance et c'était bien fréquenté. Vous auriez adoré ça, j'imagine.
Probable. Je résidais juste en face. Voilà. Bon, après, quand même, je ne la fréquente pas dans son quotidien, mais son esthétique générale, son allure en pleine...
Oui, elle est très jolie.
En pleine cité, comme ça, je la trouve assez majestueuse. Ouais.
Pour revenir à Michel Serres, qui était votre ami... il comparait les rugbymen aux mousquetaires, justement, de ce temps-là, au XVIIe. C'est le temps des mousquetaires. Même sens de la communauté, de la solidarité, du panache. Et vous insistez dans vos livres. Il n'y avait pas de stars pendant longtemps dans le rugby. Hein. C'était un pour tous pour un, au fond.
Ah, ça, on peut le dire. Ça peut se résumer à ça. Il y a, me semble-t-il, chez Michel Serres, le Gascon, quand même. Il y a quand même une espèce de sensibilité profonde à ce qu'on pourrait appeler le lien social qui naît des aventures, non pas de la combativité, de la rudesse du monde, pas forcément non plus de la guerre, mais il aime assez quand les hommes se solidarisent pour affronter les difficultés de la vie, quoi, tu vois. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans le lien social qui fait grandir, parce qu'il génère de la sécurité. Et il a une forme d'adoration, lui, ou tout au moins de grande respectabilité sur le concept sur les mousquetaires. Alors, si on analyse les mousquetaires, me semble-t-il qu'il est fidèle. Alors, et, en l'occurrence, Michel Serres, et moi je ressens un peu ça aussi, mais c'est une espèce de... Ouais, le monde sacré, c'est celui du lien. Voilà. Là, on discute pas, hein, tu vois. Ne te retourne pas, j'y suis, quoi. Ne te retourne pas, j'y suis. L'élément base de cette réflexion-là, quoi.
Et c'est du rugby aussi.
Mais c'est celle du rugby aussi. Et alors, c'est totalement celle du rugby. C'est à l'exclusive celle du rugby. Toutes les autres ne sont que des dérivés. Toutes les autres ne sont que des dérivés. Le jeu est né pour ça. Le jeu a été structuré pour ça. La pratique, celle qu'on a mis, que quelques esprits un peu élaborés ont essayé de construire, tu vois, elle est née autour de cette idée essentielle, quoi. Ensuite, après, alors, et chez Michel Serres, et chez moi aussi, peut-être chez toi, je l'espère, il y a l'idée que, autour des mousquetaires, hein, ou peut-être autour de l'âme de France, alors là, bon, il faut faire un peu attention, il y a quelque chose qui mijote autour du thème du panache. Il y a quelque chose qui mijote autour de ça. Ce n'est pas non plus une évidence. On n'est pas tous empanachés. Il suffit de regarder autour de nous. Quoi.
Même ah, le panache, c'est à quoi on le reconnaît pour moi. C'est notre plaisir de la défaite. On sait perdre.
Ouais.
On sait perdre.
Ouais, puis il nous arrive de dire on a perdu, mais quand même...
Non, mais on sublime la défaite. Au fond, nos plus beaux souvenirs historiques sont souvent des défaites.
Ouais, et en rugby,
et dans le sport aussi.
Oui, en rugby, c'est pas faux. Ouais. Hein
ouais, on okay, a été ouais. très heureux en perdant au football, absolument. Au rugby.
Et donc, cette dimension-là, et qui est une dimension aussi, j'allais dire, que le rugby porte. Tu ne seras jamais grand en rugby si tu n'es qu'un destructeur.
Frédéric Taddeï se balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
Ce que vous expliquiez très bien, c'est pourquoi est-ce qu'on a interdit la passe en avant au rugby ? C'est quand même un mystère, on se dit c'est une petite coquetterie, tiens c'est marrant, pourquoi on n'a pas le droit de passer la passe en avant. Au fond là aussi c'est fondamental et c'est ce qui fait qu'à un moment le ballon c'est la ligne de front.
Absolument.
Il y a une équipe qui est derrière,
une équipe au-delà.
Une équipe au-delà, il y a un type qui porte le ballon et tous les autres sont derrière.
Absolument. Alors la règle de l'avant, on est obligé de faire un arrêt conséquent parce que de fait, la passe en avant sur un terrain de rugby, c'est ni une espièguerie, ni une coquetterie, c'est l'âme. C'est l'âme. Moi, je la vénère tous les jours, que mon pater, mon milieu familial, les deux collègues, des éducateurs du bout de ma rue, qui m'attendaient sur la place publique, tu vois, pour toucher du ballon, ceux-là, ils m'ont invité à la passe en avant, à réfléchir sur la passe en avant. Alors, effectivement, l'en avant ou la passe en arrière, ça pose quand même une idée. Tu cours avec le ballon, en face, t'as 15 mecs, ils ont tous les droits, tu vois, tous les droits. Et puis, il vaut mieux que tu le saches en même temps qu'ils ont tous les droits, parce que si tu rentres, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, on va manger lourd, quoi. Donc, l'affaire, ils ont tous les droits. Et les collègues, où ils sont, ils sont derrière. Et tu les vois, mais non, je ne les vois pas. Ah bon, et comment on fait alors? Tu leur envoies le ballon, puis ils se démerdent. Ok, mais... Non, l'idée fondamentale, c'est que celui qui est devant, celui qui a l'initiative, celui qui a le destin du monde dans l'instanté, quoi, dans la balle qu'il porte contre son cœur, celui-là, il faut qu'il ait toutes les libertés du monde, de fait. Toutes les libertés. Il faut qu'il ait dans son cœur pas la moindre crainte, pas la moindre angoisse. Et alors, tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les 14 autres derrière, tous derrière. Ne te retourne pas, ils y sont. La solidarité a été imposée par la structure. Tu vois, la stimulation du partage a été imposée par l'organisation. Les 14, ils sont toujours derrière toi. Ne te fais aucun souci, ils y sont toujours. Et alors, avec un petit point en nota bene, s'il en manque un à l'appel, il est frigo définitivement pour 5 générations.
Tu vois, c'est la malédiction.
Ouais. C'est vrai qu'il y en a un qui n'était pas venu m'aider à une époque où là, il y aurait mauvais temps. La passe en arrière porte le sens absolu, j'allais dire... Du solidaire, quoi. C'est ce qui fait que qu'un solitaire, de fait, c'est-à-dire qu'une âme humaine normale, quand même un peu centrée sur soi, elle passe à une âme préoccupée des autres, c'est quand c'est solide. Voilà. Ne te fais pas de soucis, collègue. Ne te fais pas de soucis. J'y suis. Ça, quand tu me regardes dans les yeux, tu me dis, c'est une des métaphores All Black les plus séduisantes.
All Black, c'est l'équipe des Néo-Zélandais.
Néo-Zélandais, ouais, qui avant le coup d'envoi, ils se réunissent et en une espèce de seconde, ils font le grand périmètre des regards. Et le mot-clé, c'est « tu peux me faire confiance ». Tu vois ? Oh. Et après, on y va. Ah. Quand c'est dit...
On se retrouve dans un instant avec Daniel Herreau. Nous entrons dans la rue François Miron avec Daniel Herreau, magicien des mots, philosophe du rugby. Et on arrive devant le seul pub, à ma connaissance, écossais de Paris. Je pense que c'est pour ça que vous vouliez nous faire passer
par ici. Je voulais qu'on passe par là, sait-on jamais que nous ayons une petite soif et que de temps en temps, un peu de houblon rafraîchisse nos gorges, tu vois. Mais on verra plus tard. Au demeurant, dans la rue François Miron, c'est quand même une grande rue, à mes yeux, une belle rue de ce quartier.
C'est là que sont tombés les premiers obus tirés par la Grosse Bertha. Ah. Pendant la guerre de 14, à 120 bornes d'ici, il y avait le canon et c'est tombé ici.
Ah, la Grosse Bertha nous a envoyé des pruneaux juste
ici, rue François Miron. Rue François Miron. Et sur l'église Saint-Gervais, qui est un peu plus loin.
Qu'on aime beaucoup, sur lequel on dira peut-être deux mots. Mais alors, quand même. Quand t'es au Val, ce qui est probablement une de mes caractéristiques, tu vois, et que tu as quelques goûts pour les choses du convivial sur le terrain, où l'adversaire quand même est un adversaire, mais moi je dirais au fond de mon âme un partenaire adverse. Mais quand t'as un peu de goût pour l'analyse des gens qui le pratiquent, tu peux pas ignorer que l'Écossais c'est un seigneur.
Ah oui.
Ah ouais. Ah ben.
Faut le rappeler aux Anglais, hein. C'est les Anglais qui en doutent.
Voilà, alors les Anglais, mais les Écossais, ils en doutent quand ils parlent des Anglais, je te dis tout de suite. Hein. En l'occurrence, par exemple, là, nous passons devant un pub écossais. Tu imagines qu'il est toujours très effervescent, pour ne pas dire flamboyant, quand il y a un match du tournoi. Alors quand il y a un France-Écosse, ici, tu peux venir pendant deux heures. Alors, tu seras un peu surpris le soir sur le tard. L'Écossais boit beaucoup quand même, on ne peut pas dire le contraire. Il se pinarde de mousse, mais à l'ancienne, de la bière, donc. Il boit un peu quelques whisky, il sort pour se faire vomir, tu vois, et il rentre pour reboire.
À la romaine.
Il a cette délicatesse, tu vois. Il finit pas désagréablement rôti, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'y viens de temps en temps, assez souvent. Alors, j'y viens, de fait, un peu plus souvent quand il y a l'Angleterre-Écosse.
Ah bah oui.
L'Angleterre-Écosse, ça les met à l'envers.
Mais il faut dire que c'est drôle, parce que l'Angleterre a essaimé le rugby chez tous ses ennemis héréditaires. Là, the old Scottish.
C'est-à-dire que nous avons, à travers le temps et l'histoire, eu un petit temps de codivance avec l'Écossais. À l'époque de
Wallace, de Braveur. Bien sûr, nous, on était leurs alliés contre les Anglais. Nous, on a été l'allié de tous les ennemis des Anglais. Non, mais ce que je veux dire, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on dit que le Valais, comme vous l'appelez, est devenu mondialisé parce qu'il y a la Coupe du Monde qui vient de se dérouler. Mais en réalité, l'Angleterre a essaimé essentiellement chez ses ennemis héréditaires, donc la France, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, et puis un peu plus loin, ses anciennes colonies, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.
Ah oui.
Et c'est toujours ces huit équipes-là, d'ailleurs, qui continuent de gagner.
Qui se retrouvent au bout, quoi. Hein.
Qui se retrouvent à la fin de la Coupe du Monde.
Absolument. Bon, nous, on pourra dire qu'on a une vraie quête, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas été évidente pendant longtemps, mais la quête de la mondialisation, tu vois, de l'universalité du jeu de rugby. De fait, nous, gens d'Ovalie, on n'était pas mécontents d'être dans une petite troupe où chaque année, on se retrouve à la même époque. Tu vois, chaque année, au mois de mars, février-mars, on guerroie contre les collègues d'Écosse et des pays de Galles, contre un adversaire incontestable qu'on appelle l'Angleterre. Et ça nous allait bien. La Coupe du Monde, mais la mondialisation, le rugby aux Jeux Olympiques, le rugby à 7, mais quand même devenu olympique, le rugby, bon, se mondialise incontestablement, mais il est vrai que beaucoup, alors tous, sans exception, tous, ce qu'on appellerait le panel, quoi, tous nourrissent vis-à-vis du bâtisseur anglais, enfin celui qui l'impulse, une espèce d'irritation. Pour d'aucuns, elle est sévère. Nous, elle est courtoise, de fait. Il nous irrite beaucoup sur la posture, sur l'allure, quand il nous tire les oreilles, quand il nous fait la morale, l'anglais. Mais enfin, quand même, bon, en même temps, on a un profond respect, puisqu'il a inventé le jeu de rugby, et à partir de là, quand même, comme tu l'imagines,
authentique. La différence que vous soulignez souvent, c'est qu'en France, le rugby est un sport populaire, alors qu'en Angleterre, c'est vraiment le sport de l'élite.
Absolue. Alors, sport de la up middle class.
Ouais.
Sport de la haute classe bourgeoise. L'aristo, il joue pas trop au rugby. L'aristo, il a ses pratiques, il a ses greens, tu vois, il a tout le monde de l'éducation, de l'équitation. Mais la up middle class, oui. La haute classe bourgeoise, oui. L'équipe d'Angleterre jusqu'à il y a peu, et même encore là, hein, Ils sont tous bacheliers, c'est tous des bacs plus 5 plus
8. On défendait le collège.
On défendait d'abord prioritairement la house du collège, tu vois, puis ensuite le collège, puis ensuite... Et il y a toujours un truc qui est assez, reconnaissons-le, assez séduisant. L'anglais, encore aujourd'hui, quand il met le maillot, tu vois, t'as l'impression qu'il...
Mais c'est vrai que jusqu'à dans les années 90, ils comptaient même pas les points, il n'y avait pas de championnat de rugby en
jusqu'à
Angleterre.
91.
91,
c'est hier. Jusqu'à hier, l'anglais n'avait pas de championnat. Non mais, alors j'allais dire une bêtise, elle me sort comme ça. Ils avaient que mépris sur le classement. J'allais dire, ils s'en branlaient de fait. Grosso modo, ils avaient que... Ça m'a échappé. Mais, non mais, bon, grosso modo, il n'y a pas de considération pour la chose. L'important, c'était le test. D'ailleurs, quand ils jouaient des test-matchs. Aujourd'hui encore, ça reste à la Nouvelle-Zélande, tu vois, à part la Coupe du Monde, il y a des test-matchs en automne. En d'autres termes, c'était l'idée de se tester qui était sacrée, qui était belle, qui était noble, qui était haute. Plus que l'idée de se hiérarchiser. C'est récent, le championnat en Angleterre. En Angleterre, toi, tu étais d'Oxford et moi, j'étais de Cambridge. On discutait de cette année pendant 2 ans. On dira, on jouera le 3 mars, il sera libre en 2021. Peut-être, bon. Je préfère jouer contre toi que quand même contre ceux de Liverpool. Ils sont un peu bourricots. Et donc, à la limite, on avait nos rencontres presque sectaires. Tu vois, ces rencontres de non pas de clan, mais presque un peu d'idéologie, quoi. Hein. Le classement... Alors... Comme ici, nous sommes dans une rue étrange, enfin, belle à mes yeux, la rue François Miron, que là-bas, au bout, nous avons le fief, l'antre maçonnique, tu vois, le grand lieu maçonnique. Le rugby, quand même, leur doit beaucoup à la pensée maçonnique universelle, mais essentiellement anglo-saxonne, quoi. Hein. Et l'idée, c'est que, attention, si vous commencez à vous mesurer pour vouloir gagner, il y a une métastase qui va vous grignoter. C'est la métastase de la connerie. Celle-là, elle va vous grignoter assez vite. Vous allez croire, parce que vous avez gagné, que vous êtes devenus les meilleurs. Première suspicion. Deux, vous allez croire que pour gagner des ronds, il va falloir que vous gagniez des matchs. Deuxième suspicion. Tu vois, le professionnalisme sera un danger terrible. Et troisième suspicion, pour gagner de temps en temps, vous pourriez vous égarer dans des comportements suspects. Petit coup de genou dans les rognons, tu vois, emplâtre par derrière, tu vois, piétinement suspect. Tu vois, tous ces trucs-là qui sont de fait des offenses à la morale, des offenses à la loi, comme dirait mon ami Michel Serres. Voilà. Et longtemps, ça fait l'âme du jeu. Non, 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 non. Pas pro, pas d'argent, non, 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 pas de classement, non, non. Vous allez devenir con. Le problème, c'est que depuis l'an 2000, on est passé pro. Nous avons un peu d'argent, pas beaucoup, hein, et que nous sommes sur la route. On n'y est pas arrivé encore. C'est de la connerie.
Daniel Herreau, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez des Parisiens. Je sais que vous habitez, vous adorez cette ville, mais je me suis dit, autant écouter Léo Ferré qui chante les Parisiens. Pour être où vous venez du Sud, tous les deux, vous devez à peu près avoir la même opinion.
Ouais, mais tu m'aurais mis, évidemment, Nougaro qui chante de Toulouse, ça ne m'aurait pas vexé, je te l'assure.
Non, bien sûr, mais
tu m'aurais mis Brel qui chantait le plat pays, je me serais, tu vois, esbahi de bonheur, quoi, tu vois. Dans ma Provence, il n'y en a pas beaucoup, mais tu m'aurais mis, je ne sais pas, hein, tu vois... Trois paroles de Rému avec autour de Marcel Pagnol que ça m'aurait aussi ravi.
Et ben c'est les Parisiens, pas Léo Ferré.
Les Parisiens à pied ou à patin, en auto ou à chien, ça a de la branche. Ils vont traîner leurs prénoms sur les quais dans la soie des baisers quand vient dimanche. Et les Parisiens, ça se connaît à des riens, un clin d'œil, un tapin, qu'à de la hanche. Et les Parisiens, ça se vient voir de très loin, de New York ou Pékin. Et les Parisiens. Et les Parisiens, ah. À vison ou à rien, quand ça se déclenche, sa gueule pareil, que ça mange dans du vermeil, ou que ça vide d'une bouteille avec la manche. Les Parisiens, qui sait à quoi ça tient, tête à tout, tête à rien, mais ça tranche. Les Parisiens, ça peut partir très loin, mais tôt ou tard ça revient. Les Parisiens. Et les Pharisiens, les Anglais, les Ricains, les les Ruskoffs, les Indiens sur la place Blanche. Ça va la nuit en rôteuse, en whisky, faire la cour à Paris qui penche, penche. Et les Parisiens, ceux d'Auteuil, ceux de Pantin, ça les fait rire un brin. C'est tranche, les Parisiens, dès qu'on touche le patelin d'un regard ou d'un rien, ça s'entend bien.
C'était Léo Ferré qui chantait Les Parisiens. On arrive devant une fameuse librairie, hein, que vous fréquentez assidûment.
Oui.
Eh bien, on va y entrer, ouais. On s'y retrouve tout de suite.
Frédéric Taddeï, en balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.
Nous sommes devant la librairie Michel Ignasi, 17 rue de Jouy.
Comment vous avez dit ?
Ignasi, vous dites comment
mais
vous...
Mais le nom de la rue ?
La rue de Jouy. Non, mais vous en êtes encore là, franchement. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même une librairie pour puristes, une librairie pour intello, hein, ici.
Ah oui.
C'est structuralisme, psychanalyse, philo. Et ceux qui, pareil, parfois, par imprudence, demandent un bouquin de Guillaume Busseau ou un livre sur le développement personnel.
Ils se font ressembler. Ah oui, ils sont injectés à coups de pompe. Non, il y a. Alors. Moi, j'ai du goût. J'ai du goût pour le lieu, j'ai du goût pour les gens qui vitalisent cette librairie. J'ai du goût même pour le contenu, je l'avoue sincèrement. Après, il n'y a pas de suffisance intellectuelle, mais avec nous, on est fréquenté que par les intellos. Et si tu viens demander, par exemple, un bouquin de sport, on t'aura... non, tu seras reconduit avec gentillesse, mais reconduit quand même. Hein.
Et bien, entrons, mes jambes derrière vous.
Grand goût, j'en dirais pour le champ psychanalyse, me semble-t-il.
Oui, mais pour l'économie, pour tout ce qui est sérieux.
Donc, voilà.
Je pense qu'il y a pas vos livres ne sont pas là.
Je me suis un peu irrité sur le sujet, en disant « vous l'avez oublié ». J'ai essayé de mettre une ou deux phrases philosophiques, essayer de conquérir un peu de considération, malgré tout. Non, mais...
Non,
ou alors s'ils l'ont mis, c'est franchement pour me faire plaisir.
En tout cas, je ne le vois pas. Mais vous lisez sérieusement les sciences sociales
Ah oui.
Ouais.
Alors, j'aurais le goût, pas historique, mais j'ai le goût personnel depuis longtemps de tout le champ des relations. Mmh. Tu vois ? Voilà.
Seulement les bourre-pifs, quoi.
Pas seulement, je vois l'emplate dans le cornet, sur le travers, quoi, tu vois, ou le coup de genou dans les rognons, non. J'aurais ce goût-là. Alors, ce goût-là, il m'a amené à être prof, par exemple. Ouais. Tu vois, ça, le goût de ce qu'on pourrait appeler la communication, ou la communion, comme dirait François Tien, tu vois, ou comme dirait, je sais pas qui, Michel Serres, peut-être la pédagogie, ou la didactique, tu vois. Ce monde-là, il me plaît.
Entraîneur, c'est un peu ça.
Ouais, c'est un peu ça. J'étais joueur d'un jeu très volumineux en matière de relations. J'étais entraîneur pendant longtemps, plus de la moitié de ma vie, de fait. Bon, ça atteste une considération pour ça, quoi. Après, quand tu mets le nez là-dedans, le nez sur la transmission, le nez sur... Et si tu t'habites d'une idée que, de fait, dès que tu es en relation avec le monde, tu transmets autant ce que tu es que ce que tu sais... Tu vois ? Alors là, bon, ça t'amène à aller voir un peu sur d'autres champs, et pas que uniquement le champ, comme on dirait l'autre, je sais pas, de la construction, de la transmission des savoirs, quoi, tu vois, qui est le champ de la méthodologie, des communications, quoi. Donc, fatalement, tu vas voir un peu sur les psychés, les confusions de psychés, les tempéraments et les natures et les cultures, et tu vas aussi, fatalement, sur ceux qui pensent que ce que tu vois, c'est le premier jet, ceux qui pensent que ce que tu vois n'est que l'ultime. Donc, après, tu côtoies un peu, et moi, de toute façon, de façon assez superficielle, même si c'est avec du goût, quoi. Fatalement, je sais pas, j'ai eu pour maître, je sais pas, Bergson, ou en fait, celui qui a écrit les essais, quand même, que je pouvais pas faire autrement, tu vois, qui était Montaigne, ou alors un autre que j'ai adoré, mais qui était pas philosophe, mais qui était peut-être un homme de transmission, puisqu'il était maçon, celui qui était l'extracteur de quintessence, Rabelais.
Ah oui, mais il a enterré juste à côté, là. Et,
tu vois, je savais même pas ça.
Ah oui, juste à deux pas, là.
Eh ben, tu vois. Donc, fatalement, ce monde-là me préoccupe. culturellement, quoi. Et puis le jour où tu te trouves face à des élèves, ce qui était mon métier, j'étais prof, quoi. Après je me trouve à la fac, face à des élèves qui vont devenir profs, face à des gens qui vont être enseignants. Le jour où tu te trouves ensuite derrière une carrière où j'épouse assez souvent le rôle ou la fonction ou la mission de lead. Tu vois, c'est capitaine quand je suis petit, quoi. À 14 ans, je suis capitaine des cadets. À 17 ans, je suis capitaine
de France, d'ailleurs, de junior.
Voilà, je suis capitaine de l'équipe de France junior. Mais tu vois, le trajet est plutôt glorieux. Enfin, glorieux, c'est pas le mot. Hein. Tu vois, le trajet est gratifiant, quoi. Donc, et que tu t'impactes de... Si la première qualité de l'entraîneur, c'est d'être entraînant, et si la première qualité d'un prof, c'est de faire en sorte que l'enfant soit heureux pour acquérir des savoirs, ouf, alors, collègue, il va falloir qu'on vienne ici. Dans cette librairie-là, de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Après, je n'ai pas rencontré ni Lacan, Freud, n'en parlons pas. Mais j'aurais bien aimé le croiser. Je pense que j'aurais rien compris. Mais j'ai eu des amitiés assez fidèles avec Michel Serres, qui était pas de ma génération, comme tu le sais. Mais voilà, j'ai eu ce privilège un peu de faire le bout de route avec quelques-uns que j'ai un peu côtoyés. Je ne sais pas. J'ai plus d'affection de fait, quelle que soit la route. J'ai plus d'affection. Évidemment, Serre, lui, c'est mon maître. Mais je sais pas, à Michel Onfray, ça peut m'arriver quand même d'avoir du goût à discuter, quoi. Tu vois, quel que soit, si à un moment j'ai envie de lui dire, je peux t'en filer une aussi, tu vois. Mais voilà. Voilà, c'est dans les temps contemporains. Et dans ce lieu ici, cette petite librairie-là, il y a une espèce alors, de
grande par la réputation.
Voilà, grande par la réputation, pas par la surface. Reconnaissons-le, il y a trois ouvrages. Mais bon, de fait, dans ce lieu-là, il y a l'atmosphère. Ce qui est toujours, tu vois, l'atmosphère. Il y en a d'autres que tu connais. C'est souvent le cas, ce que nous, on appellerait peut-être des bonnes librairies. Quand tu rentres, tu dis plus non. Ça le fait. Ça le fait. Moi, j'ai peu de copinage dans les, tu vois, sur la bande des livres, quoi. J'ai peu de copinage, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même. Et en même temps, ici, un, les gens qui gèrent, et deux, les gens qui fréquentent. Il y en a quelques-uns qui peuvent avoir de la lumière dans les yeux. Ouais.
Eh bien, on va continuer notre balade. On va traverser la Seine, rejoindre la rive gauche. On s'y retrouve juste après les infos avec Daniel Herrero.
Europe 1, en balade avec Daniel Herrero. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Daniel Herrero et son bandana rouge. Daniel Herrero qui vient de publier son dictionnaire amoureux de l'Ovalie aux éditions Plomb et qui est en train de nous servir des verres de Jurançon. Nous sommes à l'avant-comptoir du marché, 14 rue Lobineau, chez Yves Candebordes. L'un des pères de la bistronomie, de la cuisine de bistrot. Il est du sud-ouest, hein. C'est un palois, il n'est pas là, mais vous lui rendez hommage. Là, on nous a apporté du jambon, du saucisson. Il faut dire qu'il y a un cochon rouge qui trône, enfin non, il trône pas, il est accroché au plafond.
Nous sommes ici dans un antre, j'allais dire, de convivialité, dans le quartier Saint-Germain. Le rugbyman que je suis... J'allais dire de toutes les terres de Provence sans aucun doute, mais en même temps de cette terre de France, on a pour ce lieu beaucoup d'affection. On appellera ça, nous, la vallée de la soif, tu vois, cet univers-là, autour du marché Saint-Germain, autour de la rue Princesse. Voilà, il y a ici quelques lieux qui, depuis des lustres, quasiment le XXe siècle, quoi, sont le jour des grands événements rugbystiques. Il y a les dimanches ordinaires où les clubs parisiens viennent aussi un peu festoyer, prendre la nuit en affection avec le gorgeon et la convivialité. Et alors pour les grands matchs de l'équipe nationale, la vallée de la soif, ici c'est le lieu, c'est le fief des libertés de mots, des libertés de convivialité, du gorgeon et de la collation. Et Yves Candegorde, dans ce lieu-là, lui, homme de la haute gastronomie et en même temps enfant des terres ovales, il est palois d'origine. C'est dans cet endroit-là, c'est toujours gentil, c'est toujours affectueux, c'est toujours très empathique. Et puis en même temps, c'est toujours, je dirais, très généreux en saveur.
Oui, puisqu'on parle d'animaux, pourquoi le coq ? Pourquoi le coq est-il l'emblème des sportifs en France, mais des rugbyman depuis les années 20 au moins.
Oui, alors des sportifs, Fred, parce que c'est pas l'emblème de la nation de France. L'emblème de la nation de France, c'est le drapeau et la fameuse liberté, égalité, fraternité. On n'a pas de le coq. L'histoire est complexe parce qu'il semblerait qu'aux origines, la confusion d'un empereur romain, probablement un César, sur le Gallus, c'est-à-dire le Gaulois, quoi, et le coq. tu vois, avec des métaphores des fois un peu impertinentes des uns sur les autres, ça a fonctionné jusqu'à l'idée de la confusion. Mais cette idée de confusion ne s'est jamais concrétisée, bien que on sait chez les Romains conquérants de la France, y compris Tabassan avec les pieds de pauvre Vercingétorix, que l'impertinence coq s'est un peu véhiculée autour de ça. De fait, je crois que c'est De Gaulle. Je crois que c'est De Gaulle. Le coq sur le maillot, il vient quand même assez tôt. En France, je crois que c'est sur le maillot du sportif, je crois qu'il vient dans les années 30. Sur la terre de France, c'est la symbolique du coq. C'est De Gaulle à Alger en 42, quand va s'impulser l'esprit de reconquête, que le coq va devenir un emblème à la fois de l'orgueil. Il faut dire que la morale du jeu de rugby, la morale ou les sens du jeu de rugby, presque totalement vitalisée, cette morale, puis structurée, et puis impulsée sur le terrain, c'est-à-dire comme une pratique, c'est maçonnique. Et le coq, dans la pensée maçonnique, il a grande force. Le coq, il chante trois fois. Il chante le réveil, c'est-à-dire il chante la fin de la nuit. Chaque aventure est un recommencement. Il chante l'arrivée du soleil, tu vois. Il chante l'arrivée du jour et l'arrivée du soleil. Il chante les trois phases de la renaissance. En cela, il a conquis, je dirais, sur le coq des poitrines sportives, sa plus belle symbolique, quoi.
Et voilà. Puis il chante sur un tas de fumier aussi.
Alors ça c'est
aussi
l'anglais qui nous le dit. C'est un vieux impertinent que je suis pas. Il dit ouais, en plus le coq quand même, il chante plutôt bien, mais surtout sur un tas de fumier.
Mais ouais. C'est toujours pareil. Nous on arrive à faire des défaites, des moments sublimes.
Ouais, il y a. Alors on aime bien. Alors après, par exemple, le monde du rugby a ces choses assez étranges parce que quasiment toutes les grandes nations du monde ont des emblématiques qui ne sont pas leur emblématique nationale. Alors, les Anglais, si, les Anglais ont la rose. Mais les Gallois, ils ont le poireau, par exemple, tu vois. Les Écossais, ils ont le chardon. Les Fidjiens, ils ont le cocotier. Les Springboks, c'est l'Afrique du Sud. Les Gaillardas olympiques, ils ont une petite gazelle à deux balles, esthétique, mignonnette, alors qu'eux, c'est des mangeurs de viande éperdus. Les Australiens, c'est pas si faux, mais les Australiens, ils ont le... C'est pas l'emblème national, ils ont le wallaby. C'est un petit kangourou. Les All Blacks, ils ont la fougère. Hein. C'est pas l'emblème de la nation. Hein. Et une espèce d'emblème presque exclusivement attaché ou rattaché au champ du sport, avec l'idée quand même que... d'ailleurs, il y a des légèretés dans le champ du sport. Voilà. Et que, par exemple, nous, le fait qu'on ait un coq comme emblème, reconnaissons que c'est limite. Il faut qu'on en discute sur la potentialité intellectuelle et progressiste du coq, quand même, tu vois.
Oui, c'est pas l'animal le plus fascinant de la création.
On pourrait dire ça, bon.
Alors que le porc, le cochon, qui est ici à l'honneur.
Ah, ici, très à l'honneur.
Il nous rend bien service.
Ah oui, il nous rend service. Et nous avons une affection démesurée. Ouais, sa générosité culinaire, sa générosité gastronomique, le fait que quand il donne sa vie à l'homme, il la donne tout azimut. Non, grande considération du cochon. Grande considération du cochon. Il ne me dérangerait pas d'ailleurs que nous, gens de France, mais nous sommes nombreux à le revendiquer, le coq quand même, hein, le cochon. Il ne me dérangerait pas qu'à côté d'un cochon, mais à côté d'un coq, on puisse mettre un cochon. Ça nous ferait un peu une basse-cour, comme dirait l'autre, mais bon.
Eh bien, on va terminer notre petite assiette de jambon et notre jurançon. Et on se retrouve juste après. On continue notre balade avec Daniel Herrero. Nous étions dans la vallée de la soif. Eh bien, on se dirige maintenant avec Daniel Herrero vers la rue de la soif, surnommée ainsi par Jean Cormier, hein, grand journaliste du rugby. La rue de la soif... nous tend les bras. Mais avant de vous révéler où c'est, une ou deux questions à Daniel Herrero. On évoquait tout à l'heure le rugby féminin. On le sait peu, mais les Françaises excellent, hein, en rugby. Ils ont remporté combien ? 5 grands chelems, je crois, récemment, hein, dans le tournoi des destinations.
Le rugby féminin a sa place de façon incontestable dans le panorama sportif français, dans le panorama d'Ovalie, évidemment. Quoi. Les filles ont gagné effectivement dans les 10 dernières années 5 ce qu'on appelle le grand chelem, parce que les filles ont aussi un tournoi des 6 nations quand elles gagnent leurs 5 adversaires, donc c'est un grand chelem. Et les filles, pour la première fois, et ça me paraît un événement assez conséquent, pour la première fois dans cette année 2019, les filles de France, portant le coq comme emblème de notre équipe nationale, ont battu les Néo-Zélandaises, championnes du monde. Elles ont battu à Grenoble devant 25 ou 28 28 000 personnes le même jour où les rugbymen masculins jouaient contre l'Argentine et firent un match piteux. Et les filles ont été flamboyantes. Et pour la première fois, toute analyse, enfin, on dira, les filles surtout, mais nous aussi, on peut le penser, enfin, tu vois, une haute considération, parce qu'une grande performance, c'était en même temps, pour les filles de France, d'Ovalie, c'était en même temps accompli avec grand talent et grande élégance. Mmh.
Ouais. Elles sont combien? Il y a quoi, de 25 000 licenciés?
Ouais, un petit peu plus.
Un peu plus?
Oui. Alors il faut dire que l'histoire est complexe, que dans notre société, dans cette long cheminement égalitaire, quoi, en rugby, alors n'en parlons pas. Quand même, le sport a la vieille tradition machiste, elle a été longue
assez. Pourtant, oui, mais c'est depuis après la Première Guerre mondiale que les filles ont commencé à jouer au rugby.
Voilà.
C'est une vieille histoire.
Très vieille histoire. Mais quand même, c'était une poignée de figues, comme dirait ma mère. Pendant longtemps, entre deux guerres, ouais, c'était deux. Enfin, peut-être un petit peu plus. Enfin, bon. On dira que l'après-guerre commence un petit peu, on le voit, mais le sport féminin rentre un peu en avance à l'évolution sociale, de fait. On voit aux Jeux Olympiques, tu vois, en 1924, ici à Paris, dans les années 30, on voit des compétitions féminines que l'on ne voit pas encore dans la société. Rappelons quand même que nos mères n'ont eu le droit de vote qu'en 1948. Quoi, hein, ouais. On a quand même été un peu longués là-dessus. Et alors, en rugby, il a fallu attendre les années 68, quand même, la grande turbulence dans laquelle moi je m'active un peu, pour ne pas dire sérieusement. Tu vois, dans les années... Ouais, pas belliqueux, mais un peu turbulent, on dira. Et dans les années 68, ça émerge, cette idée. Dans le champ du microcosme sportif, pourquoi pas les filles? La fédération française renacle, non, ça se fait pas, on n'est pas encore mûr pour ça. Ça va mettre 4 ou 5 ans. Les filles vont se mettre dans ce qu'on appellera une association sportive rugbystique, tu vois, une diablerie, quoi. Et puis finalement, 7 ou 8 ans après, la fédération les accueille. Et maintenant, honnêtement, on est passé de 7 ou 8 000 licenciés presque essentiellement universitaires. Hein. Presque essentiellement, ce qui est aussi un très bon signe chez les filles. Quoi. On est passé maintenant, en un an et demi, là, à, je veux dire, ça a décuplé quasiment. Quoi. Et il y a une trentaine de mille de licenciés. Quoi.
Est-ce que les filles alors, sont aussi actives que les garçons lors de la troisième mi-temps les agapes, comme vous dites.
Oui, oui.
Cette culture inséparable de la planète Ovalie. Les filles, ça va aussi?
Oui. Ah oui, alors, pour pas qu'il y ait d'équivoque, parce qu'on s'imagine que la troisième mi-temps pourrait ressembler à une espèce de gabégie balourde, d'alcool et de gnôle, de vulgarité. Non, la troisième mi-temps, c'est un temps original, puisque c'est derrière les deux de rude, celle de doux. La première mi-temps, la mission 1, quasiment, c'est libérer la parole. Et libérer la parole dans nos sociétés, c'est complexe. Et libérer la parole derrière l'événement, c'est complexe aussi.
Mais il faut chanter.
Il faut chanter. Il faut chanter et peut-être un peu s'affrioler. Comme dirait l'autre, quand même, les grandes libérations de parole, c'est soit dans les rêves, soit dans les ivresses. Tu vois, ça, voilà. Ça, c'est Nietzsche, c'est pas de moi, mais je le cite quand même. Voilà, bon, gros. Et nous, la troisième mi-temps, alors voilà, a beaucoup de rêves et pas mal d'ivresses. En d'autres termes, la troisième mi-temps, considérer que, il faut boire des gorges. C'est libérer la parole. Et, quelque chose de sous-jacent, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le féminin a assez longtemps accompagné le rugbyman dans la troisième mi-temps, contrairement à ce qu'on pense. Parce que la troisième mi-temps, elle invite ceux qui ont vécu les deux premières. Tu vois, ceux qui ont joué sur le terrain, sans aucun doute, et ceux qui ont accompagné les deux premières. Tu vois, donc, la troisième mi-temps, il faut être un peu initié à la vie des choses, quoi. Si tu nous arrives d'ailleurs et que tu nous fais des raisonnements pour rentrer dans une turbulence conviviale, on va te demander un peu le passeport, quand même. Voilà. Les filles en troisième mi-temps, oui. En vertu de quoi nous penserions qu'elles n'ont pas les attributs pour jouer au rugby, et en vertu de quoi nous penserions qu'elles n'ont pas les attributs pour faire la fête.
Puisqu'on parle de chants, et Dieu sait s'il y en a des très très beaux dans le rugby, moi il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est Egoac, Les Ailes.
Ah,
très belle chanson, alors dans la version d'Anne Etchegoyen et le chœur.
C'est magnifique, c'est les Basques. Ah oui,
très beau chant. Elle est
bonne. Alors elle est bonne chanteuse, elle est remarquable chanteuse.
Et ça, c'est une sacrée chanson de rugby.
Ah oui, alors ça on l'aime. On l'aime parce qu'elle. C'est un peuple. C'est une entité où c'est un petit territoire, le Pays Basque, mais il a une sensibilité joviale, conviviale, très colossale, et très en adhésion avec le rugby. Rugby et Pays Basque, c'est chant et gorgeon, c'est convivialité, et c'est toujours beaucoup de légèreté, y compris dans la grande rudesse.
D'où les ailes.
D'où les ailes.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Daniel Herrero.
C'était Anne Etcheguayen et le chœur Escoa qui nous interprétait Egoac, les ailes en basque.
Europe 1, 11h30, en balade avec Daniel Herrero. Frédéric Taddeï.
Et nous voilà au terme de cette balade avec Daniel Herrero. Nous sommes dans la rue de la Soif. La rue de la Soif, c'est la rue Princesse à Paris, une rue de 93 mètres de long, 10 mètres de large, la rue de la Soif, quoi.
Oui, pas énorme non plus, quand même, reconnaissons-le, c'est pas la grande, tu vois, c'est pas l'immensissime avenue, mais par contre, t'as l'impression que chaque mur qui nous regarde, chaque façade de troquet, je dirais, ou de bistrot, porte des histoires, presque que des histoires d'Ovalie, il y a quand même d'autres histoires ici. Mais alors effectivement, c'est Jean Cormier, grand journaliste, amateur de rugby, bel écrivain aussi, qui l'avait labellisé. Je pense que de fait, la vraie labellisation, c'est un deuxième de nos maîtres. C'est le grand maître, c'est pour moi, c'est Michel Serres. Le deuxième de nos maîtres, c'est Antoine Blondin.
Ah, Antoine. Aussi dans le rugby, Antoine Blondin, pas seulement dans le cyclisme.
Ouais, c'est vrai. Beaucoup. Qui a écrit sur le rugby belle chose de la littérature et de la haute pensée, je dirais, en termes de littéraire, quoi.
Bah, c'est Antoine. Daniel Herrero, normalement.
T'es gentil. Mais Antoine, un maître incommensurable, un nobilisable qui est passé à côté. Les 30 dernières années de sa vie, il a pensé qu'à boire le gorgeon, on peut apprendre le stylo, mais Antoine Blondin, un maître absolu. Et alors Antoine, pas que les 30 dernières années de sa vie, il est mort, je pense qu'il avait 75 ans, les 70 dernières années de sa vie, il les a aussi passées en partie ici. Il avait une affection débordante pour les choses de la littérature, évidemment, mais il a un imaginaire incroyablement florissant. Il aimait évidemment beaucoup le cyclisme, mais il a beaucoup écrit pour le rugby, beaucoup, beaucoup.
Et il était là.
Et il venait là, ouais, Antoine. Ici, alors là, tu vois,
Bedford-Ams.
Voilà, le Bedford, on l'appellera le Bedford. Là, le fief.
Ouais. Le pub, hein. C'est un pub.
Ouais, j'ose penser, un peu l'âme britannique quand même, de l'allure dans le fond. Tu vois, un peu le club où le soir tu bois le gorgeon et puis après, ma foi, quand tu lâches les tabous, t'as un peu plus. Oui, alors j'ose penser, sans que ça me laisse du tout une saveur équivoque, j'ai bu des semi-remorques de houblon dans ce lieu.
Pourquoi la bière ? Pourquoi sur la bière dans le rugby ?
Monsieur, quelle belle question. Je l'attendais, j'ai dit on va pas conclure sans qu'on ait une petite réflexion là-dessus. Tu sais quoi ? Le rugbyman de culture morale, dame Ovalie, c'est-à-dire notre muse de fait, quoi, hein, celle qui impulse le fond moral, quoi, et derrière l'activité, c'est que les hommes doivent parler derrière l'action. La civilisation grandit quand tu mets des mots, quand tu élabores le concept. Voilà. On va trouver, nous, pour grandir et pour se développer, on va trouver un jeu sans aucun doute, mais derrière, il faudra qu'il y ait parole. Derrière la parole, c'est dur. Que l'homme parle, que l'homme analyse, que l'homme conceptualise, que l'homme mette les mots, y compris dans les nuances, c'est dur, quoi. C'est dur. Pour l'espèce humaine, qui a pourtant cet attribut-là du langage, c'est dur. Et alors, nous, on a, lentement mais sûrement, inventé ces deux choses, quoi. Un, le convivial, ça passe par le chant, parce que le chant génère l'harmonie, de fait. Le chant choral. Nous, on se prend, bon, on chante à la salope ou on chante le curé de Camaro, hein, mais c'est pas de nous, hein, c'est inventé par les, je sais pas, ou les carabins,
les étudiants en médecine.
Les étudiants, beaucoup, les étudiants en médecine. Bon, tu vois, bon, donc ça vient de l'université. Bon, le champaillard, il est limite, mais il généralise les mains sur l'épaule, il généralise l'harmonie, tu vois. Sacré pour nous, ça. Sacré, pendant un siècle et demi, sacré, les rugbymen chantaient. Mon père, il chantait, mon papé, il chantait, mes petits frères chantaient. On chantait. Alors, on chantait pas toujours très bien, mais c'est pas grave, parce que le chant est une contribution à l'harmonie. Et puis, alors, ensuite, le gorgeon. Bon. Mais tout le monde comprend bien que si tu te bois, on a joué, on a fini le match à 17h. Si à 18h, tu te mets dans le cornet deux ou trois alcools un peu turbulents, ça te colle le neurone, ça te fait gerber dans la fossée, et puis t'es pas bien. Et les mots ne viennent pas, honnêtement. La bière, le gorgeon sacré. Ah oui. Le gorgeon sacré. Alors, tout le monde anglo-saxon, déjà, qui l'a comme nature, le gorgeon sacré, pour la simple et bonne raison que tu peux boire 3 ou 4 demi, ça va te mettre 2 ou 3 heures, tu vas trinquer souvent.
Trinquer. Moi, j'ai été dans la rue Princesse, oui. La rue de la Soif, certains soirs.
J'exagère.
Il y avait de la viande saoule par terre.
J'exagère. J'avais bu un peu plus que de la bière. Je
voilà.
Sens que tu exagères.
C'était par terre.
Alors, après, quand même, moi, par exemple, je bois 3 ou 4 demi dans une soirée de bière. Ça veut dire, avec un seul demi, je trinque 10 fois avec mes petits frères. Ouais, mes grands frères, 10 fois. Avec 3 ou 4 demi, je trinque 30 à 40 fois dans la soirée. Le moment du trinquer, comme dirait Antoine Blondin, tu vois, quand les verres sont des vrais verres de contact. tu vois, brrr, voilà, et quand le zinc transmet comme ça la belle électricité relationnelle, ça, d'où l'idée que la bière est sacrée. Parce que la bière, elle t'abîme pas trop le ciboulot. Il faut quand même en boire vraiment beaucoup. Elle t'abîme pas trop le ciboulot. Et comme et même les sportifs de contre-compétition, aujourd'hui, par exemple, les grands rugbymen, All Blacks, néo-zélandais, anglais, revendiquent un ou deux demi après le match. Ils revendiquent dans une espèce de quête, je dirais, syndicale. Il faut qu'on puisse boire une ou deux mousses quand même après les matchs. Quoi,
tu vois, là, on est juste devant la façade de Cassel, célèbre club parisien, connu dans le monde entier à sa grande époque, qui trône dans la rue Princesse, et qui est le repère de l'équipe de France, généralement. L'équipe de France, soir de match, elle va chez Castel. Elle passe par la rue de la Soif, mais elle se replie, se retire majestueusement chez Castel.
Voilà. Castel, le fief. Alors, mais le fief, quand même, de l'excellence. Un ne s'y retrouve que des seigneurs. Tu vois, malgré tout. Bon, après, tu as ceux qui se faufilent dans l'antre des seigneurs, tu vois, ou qui prennent un peu le pli du seigneur. Mais voilà, chez Castel, quoi qu'on fasse après le banquet du match, à la mode traditionnelle, quoi, tu vois, derrière la grande rudesse, le seigneur. Nous, les rugbymen, on est de droit et même d'obligation, quoi. Ben, c'est pareil, on a le smoking obligatoire à les matchs de tournoi. Obligatoire, on se met en smoking, tu vois, parce que on considère que tu fais partie de... Voilà, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses d'avoir un peu d'élégance quand tu as été rudoyant. Et puis, Castel, l'antre, le cocon à la fois un peu chaleureux, un peu initié. Quelque chose qui ressemble un peu à de l'initiation. L'initiation. Boivent les gorgeons que ceux qui ont ou compris ou partagé ou participé évidemment à l'élaboration de la sueur, quoi. Tu vois, quand même, voilà, c'est un peu autour. Voilà. Quand même, malgré tout, ici se retrouvaient les frères de route de la grande aventure ovale, l'aventure internationale, quoi.
Merci Daniel Herrero de nous avoir emmené en balade avec vous aujourd'hui. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux de l'Ovalie vient de paraître chez Plon. On va remercier le Café des Phares, Place de la Bastille. On va remercier l'Hôtel de Sully, la librairie Michel Ignazi et l'avant-comptoir du marché de Yves Candebord. Merci de nous avoir accompagnés dans cette promenade. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Ciao, ciao.
Frédéric Taddeï, en balade avec Daniel Herrero sur Europe 1.